Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil, en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne et parfois même certaines écoles. Le principe formait des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio, à travers une série d'ateliers à la bibliothèque ou en classe. Ensuite, nous enregistrons les productions des participants sous forme d'émissions, notre matinale infernale. Moi, c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture et séries des bibliothèques. Ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille, tous les mercredis soirs. D'ailleurs, pour les plus motivés, à la rentrée, nous allons recommencer, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Ouais.
Oui, oui.
Et je vois dans le studio qu'il y en a qui vont réinscrire. Eh bien, je souhaite la bienvenue ce matin à Fatih la féministe.
Hello.
À Patty.
Bonjour.
À la marin baladeuse.
Bonjour.
Miss Kilt.
Hello.
Batcave.
Hey.
Et Jules.
Bonjour.
Eh bien, nous allons commencer ce matin avec un petit air de voyage. Et oui, bien sûr, nous allons en Écosse avec Miss Kilt.
Mais il pleut tout le temps en Écosse.
Non, sauf quand il fait beau. Hello, chères auditrices et chers auditeurs. Voici un quatrième périple en Écosse. Après avoir parcouru Édimbourg, évoqué quelques châteaux et aiguisé votre appétit avec des spécialités dans mes précédentes chroniques,
miam, miam.
Je vous propose aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur les clans écossais. Et oui, ne sont-ils pas un peu mystérieux ?
Mystère, mystère.
Eh bien, voici quelques explications. Commençons par définir le mot « clan ». Un clan écossais est un groupe de personnes liées entre elles par des liens familiaux ou un fort sentiment de parenté. Ce mot dérive du gaélique « clan » ou « clana » qui se traduit par « enfant ». En effet, il fait référence au lien de sang qui, à l'origine, unissait les clans. Cependant, les membres d'un clan n'étaient pas toujours directement liés car de nombreux hommes pouvaient en devenir membres en prêtant allégeance au chef de clan. Quelle en est l'origine ? Les clans écossais remonteraient au début du XIIe siècle. À cette période, ils se sont développés pour permettre aux monarques de maintenir l'ordre dans les Highlands. En effet, cette région avait connu de nombreux troubles sociaux avec les rébellions du Nord et de féroces batailles contre les Normands. C'est pour cela que de puissants seigneurs de guerre celtes se sont levés pour prendre en charge et diriger les familles locales. En retour, les chefs de clan étaient généralement fidèles au monarque écossais. Les clans étaient en grande partie formés de familles de fermiers et d'ouvriers qui travaillaient pour la famille dominante de la région en échange de leur protection. Le chef de clan faisait office de chef de la communauté et contrôlait tous les aspects de la vie du clan, qu'il s'agisse de décider des mariages ou de juger des affaires juridiques. Toute personne vivant sur le domaine du clan devait payer des droits qui étaient collectés par les taxmen et transmis à la noblesse du clan. Malgré ces inconvénients, les clans offraient un grand sentiment de sécurité et d'identité partagée car ils possédaient des châteaux ancestraux et étaient associés à des régions spécifiques du pays. D'ailleurs, chaque clan possédait ses propres symboles que l'on retrouve dans les motifs du tissu tartan ou tartan dont sont fabriqués les fameux kilts et d'autres apparats. Presque tous les clans avaient au moins un tartan attribué à leur nom et dans de nombreux cas, le dessin du tartan était créé par le chef de clan. Mais savez-vous que l'idée d'un tartan propre à chaque clan est en fait apparue assez tardivement dans l'histoire du système clanique ?
Non.
En effet, c'est seulement vers le XVIIIe siècle que cette tradition fait vraiment partie de l'identité d'un clan. Et cela s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, car on peut encore admirer des tartans de clans écossais lors des jeux des Highlands ou des mariages traditionnels. D'autres symboles figuraient dans la tenue montrant l'appartenance à un clan, comme l'écusson écossais sur lequel est inscrite la devise du clan ou le slogan, et le blason héraldique avec une sangle et une boucle qui complètent le kilt. À cette splendide et singulière tenue s'ajoute un insigne épinglé sur un bonnet et une ceinture. Il s'agit généralement d'un brin d'une plante spécifique, comme la bruyère, le chêne ou le pin sylvestre. Et pour porter tous ces attributs, que devaient obtenir les membres du clan ?
Une autorisation.
L'autorisation du chef de clan, bien sûr. Souvent...
Le chef.
Bravo, Fatih. Souvent...
Et la chef, non ?
Non, pas de chef. Oh. Pas de chef. Oh. Pas de chef.
Une autre époque.
Non, voilà. Souvent, de grands rassemblements et des célébrations de clans avaient lieu. Les divertissements prenaient la forme de contes, de musique et de poésie. Et août était le mois dédié au sport, qui ressemblait beaucoup aux jeux des Highlands auxquels nous pouvons assister de nos jours. Pendant des siècles, le système des clans était la base de l'ordre politique en Écosse, jusqu'à la bataille de Culloden en 1746. À cette date, la dernière insurrection jacobite, voulant restaurer la monarchie Stuart sur les trônes britanniques, a eu lieu pour combattre les troupes anglaises.
J'ai appris tout ça dans Outlander.
Exactement.
Oui, je visualise Jimmy sur le champ de bataille.
Mais ce fut une défaite, hélas. Et pour consolider le pouvoir, le roi d'Angleterre, George II, a introduit des lois. Interdiction de jouer de la cornemuse, de porter des tartans, et de parler gaélique. L'autorité foncière des chefs de clan a été annulée et toute propriété a été rendue à la couronne. Bien que ces lois visaient l'ensemble du pays, elles détruisirent en particulier la culture des Highlands. Les clans écossais ont dû se disperser, certains s'installant en Amérique. Mais même si ces clans ont perdu leur pouvoir, le sentiment de lien entre leurs membres persiste encore fortement aujourd'hui. Chaque année, près de 50 000 personnes du monde entier se réunissent à Édimbourg pour participer au défilé Clan Gaffring. D'ailleurs, je vous conseille de choisir cette période pour visiter Édimbourg. C'est très pittoresque. Mais si vous redoutez la foule, préférez une autre période. Chères auditrices et auditeurs, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je pense que vous verrez les kilts avec un autre œil, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Absolument. Merci beaucoup, Miss Kilt. Non, c'est vrai que là, dans ta chronique, j'étais complètement plongée dans la série Outlander. D'ailleurs, le clan de Jamie Fraser part aux États-Unis à un moment donné. Attention, divulgachage en cours. mais du coup, on retrouve bien toute cette culture-là du clan dans la série.
C'est bien décrit.
Eh bien, je vais prendre la suite. Puisqu'il se trouve que justement, la série Outlander est un très bon exemple de série à suspense. À chaque fin d'épisode, les scénaristes sont assez experts là-dedans. On arrive à un tel point qu'on a envie d'aller regarder l'épisode suivant.
La suite, toujours.
Des techniques qui sont aussi valables pour les romans et dont j'aimerais vous parler. All I'm asking you is don't write me off just yet. Eh bien, avez-vous donc déjà eu un livre entre les mains que vous ne pouviez plus lâcher ?
Oh oui,
plein !
J'espère, en tout cas. Et à quoi est dû le fait de dévorer un livre ? Il y a de nombreuses raisons, mais il en est une dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est donc le suspense. C'est tout un art de créer du suspense dans un récit. Et là encore, il y a mille et une manières de s'y prendre. Mais je vous propose de nous attarder sur l'une d'entre elles, par exemple celle de comment terminer un chapitre et donner envie au lecteur de passer au suivant. Il y a là un travail à faire, bien sûr, sur le découpage des chapitres. À quel moment, en tant qu'auteur, doit-on arrêter notre chapitre ? Eh bien, souvent, la fin correspond à la fin d'une scène. Imaginez que vous regardez un film ou une série. La scène change, en général, quand le décor change. Dans un roman, ça peut être pareil, surtout dans les romans de l'imaginaire où il y a de nombreux décors. Ce qui sous-entend que le chapitre suivant, en général, va initier un nouveau point de vue, un nouveau décor ou aborder une nouvelle intrigue. En gros, pour la faire courte, un changement égale un nouveau chapitre. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ?
Non, pas forcément.
Non.
Non. Patty, l'autrice, a dit non. Eh bien oui, effectivement, on a vu les bases, ok, mais il y a des techniques qu'on peut détailler ensemble. Alors bien sûr, on ne va pas en détailler 50, je vais vous en proposer d'en détailler 6. Et d'ailleurs, vous pourrez les retrouver sur le site mécanismedhistoire.fr. au pluriel. C'est un site qui est dirigé par Mariek, qui est une autrice aussi, et qui est très sympa, qui propose plein de tips sur l'écriture. Et elle a un article sur les 7 façons pour finir un chapitre. Moi, je vous en propose déjà 6, c'est pas mal. La première, c'est le cliffhanger. Alors le cliffhanger, c'est une fin assez fréquente dans les séries. Une fin qui demande obligatoirement une suite. Si je finis par exemple mon chapitre en disant « il sauta par la fenêtre », ben on se demande bien s'il est toujours vivant, s'il n'est pas toujours vivant.
Si c'est écrabouillé
par exemple,
au sol.
Si un cheval blanc l'attend sous la fenêtre.
Oui, ça serait... on aurait déjà vu ça quelque part. Mais oui, effectivement, il nous faut une suite. Donc pour terminer un chapitre, c'est parfait. Ou pour terminer un tome qui amène un tome suivant. Alors c'est un peu traître, mais ça se fait. Je l'ai fait, c'est pour ça que je vous dis ça.
Ton expérience qui parle.
Mais du coup, effectivement, les lecteurs, ils veulent la suite, c'est normal. Mais il faut qu'il y en ait une, en fait. Il ne faut pas que ça s'arrête là. La deuxième chose que je vous propose, c'est l'élément nouveau. Alors, en fait, c'est le simple fait d'introduire un nouveau personnage ou un nouvel événement. C'est en général une fin qui présage quelque chose de nouveau. On va vers une nouvelle intrigue ou, à l'inverse, un nouveau conflit. On appelle ça aussi une fin ouverte. Il croyait avoir résolu une affaire, mais il ne se doutait pas qu'il venait d'en ouvrir une autre.
Oh mmh.
C'est terrible. Troisième procédé, l'anticipation ou la projection. Votre narrateur peut s'interroger sur les conséquences d'actes récemment commis. C'est la projection, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Ou il peut réfléchir à voix haute en avertissant, par exemple, que ça ne va pas être si facile. C'est l'anticipation. À manier avec précaution, bien sûr, pour ne pas divulgâcher et faire l'effet inverse de celui recherché, à savoir créer du suspense. Il peut aussi énoncer un plan, on le voit beaucoup dans les films de braquage. Toi, tu vas te mettre ici, toi, tu vas nous attendre dans la voiture. Dès qu'on arrive, tu démarres, tu fermes le coffre, tu nanani nanana.
Casa des papels.
Par exemple. Mais bien sûr, vous, en tant qu'auteur, vous ferez en sorte que tout ne se déroule pas comme prévu. Sinon, pareil, on perd notre effet de suspense. Quatrième proposition que je vous fais aujourd'hui, le flashback ou la vision. Il s'agit soit d'un retour en arrière ou d'un bond dans le futur sous forme de souvenir ou de vision, qui amène des éléments nouveaux ou des explications supplémentaires à votre intrigue.
À ce sujet, il y a une série en ce moment sur France Télévisions qui s'appelle « Les gouttes de Dieu » où il y a beaucoup, beaucoup de flashbacks qui éclairent ce qui se passe au moment de l'action, quoi.
Donc voilà une bonne illustration du coup de ce procédé. Un autre que je vous propose, est-ce que vous connaissez la phrase « Que la force soit avec vous » ?
Oui.
Eh oui, Star Wars. Eh bien, la répétition, c'est aussi un procédé de suspense. Pourquoi ? Parce que quand je dis, quand on entend dans Star Wars « Que la force soit avec toi », qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça annonce ?
Un combat.
Eh oui, de la baston.
De la castagne.
C'est ça. En fait, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais en général, on ne l'entend pas à n'importe quel moment. On l'entend parce qu'on a besoin de donner du courage à un personnage, parce qu'il va affronter des choses. On a aussi ça dans Hunger Games, « Puisse le sort vous être favorable ». Oui, en général, il n'est pas du tout favorable, le sort, et c'est ce qui nous attend et qu'on a envie d'aller voir, toutes les épreuves qui vont se passer derrière ça. Donc, commencez un chapitre et le clore par une phrase déjà entendue, déjà dite au début, ça peut lui donner un sens différent, en tout cas ça peut donner un effet de suspense si on sait que derrière il va se passer quelque chose et on a envie de savoir quoi, évidemment. Dernière chose, c'est l'effet de cinéma. Donc évidemment on est dans un roman, mais tout à l'heure on parlait de série, et puis rien ne nous empêche d'écrire comme si on était, comme si on visualisait nos scènes. Donc il s'agit d'effets liés directement à la prise de vue. Si je vous dis zoom in, on parle aussi d'arrêt sur image. L'idée, c'est de faire une description qui se fond sur un micro détail du décor. C'est intéressant s'il s'agit là d'un objet ou de quelque chose qui va être essentiel pour la suite. Et en même temps, il faut que la description, elle englobe d'autres choses pour un peu laisser planer le suspense. Est-ce que ce détail est important ou est-ce qu'il ne l'est pas? Ou lequel parmi ces détails était important? Voilà, il faut que ça ait du sens, il faut que ça serve l'intrigue. C'est toujours pareil, il faut que ça serve l'intrigue. C'est souvent utilisé, d'ailleurs, cette technique dans les romans policiers. Du coup, on permet de noyer sans noyer, en divulguant, mais voilà, en noyant un peu le poisson sur des indices cruciaux. On a l'effet inverse, le zoom out, le fait de dézoomer sur une scène pour regarder le plan de façon plus large. C'est intéressant si on veut montrer un contraste, notamment entre le début d'un chapitre et la fin. Par exemple, prendre de la hauteur sur une scène, voir un plan qu'on ignorait au début parce que justement on était trop concentré sur quelque chose en particulier. Donc voilà, maintenant je pense que vous êtes prêts à créer des chapitres qu'on ne voudra plus lâcher. Et pour les lecteurs, vous allez aussi comprendre le mécanisme qui fait que vous avez envie toujours de continuer à lire le chapitre suivant. Je vous propose une courte pause musicale, une musique proposée d'ailleurs par notre Miss Kilt favori. Tu nous rappelles ce que c'est ?
Oui, le conteur Robin Williamson, qui en fait joue de la harpe divinement.
Un conteur écossais.
Un conteur écossais,
bien entendu.
Robin Williamson.
Donc là, on est sur Gwydion's Dream. Et nous voilà de retour sur Graphite dans la matinale
infernale.
Oui, on continue nos chroniques avec nos chroniqueurs du jour et on va s'intéresser à Jules, puisque maintenant qu'on est on est parti en voyage, on a bouquiné un petit peu, on est tranquille, eh bien on va se mettre en forme avec Jules et ses JO bien sûr.
Bonjour, pour ma chronique, je vais vous parler encore une fois des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, la chronique portera sur les plus grandes légendes des Jeux Olympiques. Boxeurs, handballeurs et autres athlètes, tout va y passer. Connaissez-vous des boxeurs ?
Oui, Mohamed Ali.
Oui,
bien sûr. Je voulais bien évidemment parler de Mohamed Ali. Le jeune Cassius Clay, 18 ans, participe pour la première fois aux Jeux Olympiques à Rome en 1960. Celui qui par la suite se fera appeler Mohamed Ali remporte sans difficulté sa seule Olympiade. Il deviendra par la suite une figure planétaire pour la guerre du Vietnam.
Ok, très bien.
Je vais vous parler d'une autre légende qui a participé aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Connaissez-vous l'histoire autour de ABB Bikila ?
non.
Jamais entendu parler, c'est fou ça.
C'est un marathonien éthiopien qui a marqué à tout jamais l'histoire des Jeux Olympiques, car il a parcouru les 42,195 km pieds nus. Oh. Depuis, de plus, ce jour-là, il battut le record du monde en courant le marathon en 2h15 minutes et 16 secondes.
Wow. Est-ce que tu sais si c'est un record qui a été battu depuis?
Ça a été battu depuis, oui.
Ah, mais pieds nus, quoi.
Ouais, sur quel sol? Sur quel type de sol?
C'était sur du goudron, c'était à Rome. Donc,
voilà. Mais bien.
Il avait porté son attaque décisive devant l'obélisque d'Aksum, monument pillé aux Éthiopiens par les troupes de Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, symbole. Mmh. Symbole.
Peut-être la plus grande légende de toute l'histoire des JO, le Jamaïcain Usain Bolt a remporté 8 médailles d'or dans son histoire.
Oh, extraordinaire.
Lui, ça va, on le connaît.
Ouais, lui, hein.
En 2008 et en 2012, il remporta le triplé 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. Même si en 2017, le titre du 4 x 100 mètres de 2008 a été retiré aux Jamaïcains, car le relayeur Nesta Carter était dopé. Oh. Il battut en 2008 le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. En 2016, il gagna également le 100 mètres et le 200 mètres au JO.
Trop de médailles.
Ah ouais, mais c'était beau à voir. Ouais. Ouais, je m'en souviens encore.
Remontons un petit peu le temps, jusqu'en 1956. Les Jeux Olympiques avaient eu lieu à Melbourne. L'athlète français Alain Mimoun remporta le marathon seul en tête. Blessé pendant la Seconde Guerre mondiale au point où il a failli être amputé, Alain Mimoun s'est battu longtemps avec son ami tchécoslovaque Emil Zatopek, qui le devançait souvent. Petite anecdote, la fille d'Alain Mimoun naquit la veille de la course et il l'appela Olympe.
Oh, c'est mignon.
C'est beau.
Un autre athlète tricolore qui a marqué l'histoire, Nicolas Karabatic, est le plus grand handballeur de l'histoire. Il a gagné 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent pendant les JO. Ceux à venir en 2024 à Paris seront ses derniers. Espérons qu'il soit victorieux.
Bon, attends,
oui,
c'est sûr. Attends.
On lui souhaite.
Il a également remporté 4 titres de champion du monde et 3 titres de champion d'Europe. Une grande légende qui arrêtera sa carrière à l'issue des Jeux. Autre athlète qui participe encore aux JO en 2024, qui est également très talentueux, le perchiste suédois Armand Duplantis explose tous les records du monde en ce moment. Il n'a gagné qu'une seule médaille d'or, mais il va probablement en gagner plein d'autres. À seulement 25 ans, il figure comme l'immense favori de ces JO, mais espérons que le français Renaud Lavillenie crée la surprise. La plus grande légende de la natation, selon vous, qui est-ce? Si vous connaissez quelques personnes.
Jenny Vespuller.
Pour moi, c'est l'Américain Michael Phelps.
Ah oui, oui. Oui.
Mais combien de médailles d'or olympiques a-t-il gagné? C'est énorme.
Une
dizaine. 20.
C'est 23 médailles d'or olympiques qu'il a gagnées. Wow. C'est un record tout sport confondu. Il a gagné dans 8 catégories différentes. Une extraordinaire légende. Pour finir, la Française Marie-Josée Pérec, vainqueur du 200 mètres et du 400 mètres à Atlanta en 1996. Elle a gagné 3 médailles d'or olympiques en tout. En 2000, au JO de Sydney, elle était très attendue, mais elle a dû déclarer forfait sous la pression des supporters australiens qui voulaient absolument voir gagner sa grande rivale australienne, Cathy Freeman. C'est la fin de ma chronique, la dernière avant les JO. À bientôt sur Graphite.
Merci beaucoup, Julie. Oui, la dernière avant les JO, c'est important de le préciser. Eh bien, on va continuer dans nos chroniqueurs masculins avec notre ami Batcave qui va nous parler les JO influencent beaucoup les pays et qui reçoivent. Et là, tu vas nous parler de l'influence germanophone, mais pas sur le sport du coup. Hein.
Non, rien à voir. Salut les amis, moi c'est Batcave. Laissez-moi à nouveau plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk.
Non.
Si. Vous prendrez bien une petite cure de spleen. Je vous promets, c'est excellent pour la santé. Qui dit musique froide, dit pays froid. Dans ma dernière chronique, j'évoquais les liens entre le post-punk et les pays slaves. En parcourant le web, j'observe que notre style musical est encore plus souvent associé aux pays germaniques. Certains pensent même que ce mouvement musical est né dans ces régions. Musique glaciale, mélancolique, elle partagerait en effet des qualités propres aux cultures de ces régions. Pensez au tableau Mélancolia d'Albrecht Dürer, au poète romantique allemand, au krautrock, ce rock psychédélique allemand aux origines de la musique électronique européenne. Ces moments culturels dépeignent bien souvent des sentiments d'aliénation, d'impuissance et de nostalgie qui caractérisent aussi le post-punk. Pourtant, notre courant musical s'est d'abord développé dans les pays anglo-saxons avant de se répandre dans le monde entier. Des groupes britanniques comme Joy Division, The Cure, C.O.C. and the Banshees ont été parmi les pionniers du genre, établissant les bases pour de nombreux autres par la suite. Néanmoins, une relation particulière existe bel et bien entre le post-punk et les pays germaniques, notamment l'Allemagne. Ce pays, avec son passé tumultueux et ses transformations sociopolitiques, offre un terreau fertile pour les thèmes sombres et introspectifs du genre qui nous intéresse. Des artistes influents dans l'histoire de notre mouvement, comme les Beatles, David Bowie et U2, ont séjourné en Allemagne et ont intégré dans leur production des éléments de la culture germanique. Les Beatles ont affiné leur son à Hambourg dans les années 60, jouant dans les clubs de la ville portuaire en absorbant probablement les influences culturelles locales. David Bowie, en quête de renouveau artistique et personnel, a trouvé l'inspiration à Berlin, où il a enregistré sa célèbre trilogie berlinoise « Low, Heroes et Lodger ». Berlin, à cette époque divisée par le mur, symbolisait la fragmentation et la dualité, des thèmes que Bowie a explorés dans sa musique. U2 a également enregistré « Achtung Baby » dans la capitale allemande, cherchant à se réinventer au début des années 90. Leur séjour à Berlin, au sein des studios Hansa, a permis au groupe de s'immerger dans l'atmosphère de la ville et de produire un album qui marie le rock à des influences électroniques et industrielles. Les noms de groupes comme Joy Division, Bauhaus et Cabaret Voltaire évoquent également l'histoire de la culture germanique. Et la culture germanique. Joy Division fait référence au bordel des camps de concentration nazis, un choix de nom qui évoque immédiatement une période ténébreuse de l'histoire. Ce nom symbolise l'impact profond de la Seconde Guerre mondiale sur la culture populaire et la mémoire collective. Bauhaus, de son côté, tire son nom du mouvement artistique fondé par Walter Gropius en 1919. Ce mouvement, qui prônait l'imbrication de l'art, de l'artisanat et de la technologie, a profondément influencé l'architecture, le design et l'esthétique moderne. En choisissant ce nom, le groupe fait un clin d'œil à l'effervescence artistique dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres et associe sa musique à une tradition d'avant-garde. Le groupe Cabaret Voltaire tire quant à lui son nom d'un club fondé en 1916 à Zurich, en Suisse alémanique. Ce club était un centre artistique et littéraire, connu pour être le berceau du mouvement dadaïste. En adoptant ce nom, le groupe Cabaret Voltaire rend hommage à l'esprit iconoclaste du club et aligne sa musique expérimentale avec les principes fondateurs du dadaïsme. En 2023, le groupe The Cure a réalisé la captation de son concert Trilogy, sorti en double DVD à Berlin. Le clin d'œil à la trilogie berlinoise de Bowie est évident. Mais aussi, selon Robert Smith, le lourd passé de la capitale résonnait parfaitement avec la playlist prévue ce soir-là, l'enchaînement dans leur intégralité des trois albums les plus intenses de leur discographie, soit 3h30 de concert. J'ajouterai enfin que le plus grand festival de post-punk en activité de nos jours, le Cold Hearted Festival, se déroule à Dresde. Pas étonnant au vu de la forte implantation de la culture gothique en Allemagne. Pour terminer, je vous propose d'écouter un classique du post-punk, She's in Parties de Bauhaus, sorti en 1986. En revoyant le clip vidéo en noir et blanc de cette chanson, j'ai été frappé par le parallèle entre l'esthétique nazie et le culte glamour de la célébrité. On peut y voir une top modèle porter une tenue militaire des années 40 et poser devant une limousine. En utilisant des images et des symboles évoquant le totalitarisme, Bauhaus critique non seulement les régimes autoritaires du passé, mais aussi la superficialité et la fascination pour la célébrité dans la culture contemporaine. Un des aspects les plus captivants du post-punk est qu'il convoque les démons de l'histoire contemporaine. Il nous rappelle par exemple dans ce morceau qui démarre qu'il continue de résonner dans la culture des années 80, notamment à travers le fétichisme ambigu de l'uniforme. Avec son mélange unique de pessimisme et d'esthétique, la musique post-punk nous invite à confronter ces réalités obscures, mais aussi à trouver un étrange réconfort dans l'expression artistique. It's in the can. Oh.
kiss. Hot heads under silent wigs. Bald guys tumble on the cutting room floor. Look like fall on the cutting room floor. She's in the closet. It's in the cab. She's in the closet.
Et nous voilà de retour sur Graphite dans la matinale
infernale.
Eh oui, on n'arrête pas d'être infernale ce matin. Et on va d'ailleurs continuer, mais peut-être est-ce qu'on serait pas un peu plus tranquillou ou on reste encore infernal?
Infernal.
Allez, tranquillou.
Bon, bah la marin baladeuse, t'as quoi à nous proposer si on a envie de rester infernal? On va voir ça.
Pas grand chose. un peu Justin dans ce domaine-là.
Bon, on va voir.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
Bonjour à toutes et à tous. La marin baladeuse et gourmande vous invite de nouveau à cheminer aux côtés de Marcel Proust et à déguster, peut-être. Mais où et avec qui? Avec qui? Un ami, Reynaldo Hahn. Le connaissez-vous?
Non.
Non, ce n'est pas un joueur de foot. Reynaldo Hahn est vénézuélien et musicien prodige. Ils ont tous les deux la vingtaine, se connaissent depuis peu et décident de partir de Paris vers la Bretagne le 4 septembre 1895, en train, bien entendu. Un important réseau ferroviaire exploité par des compagnies privées maille la France et devient en 1937 la SNCF. Avant 1914, le réseau français compte près de 70 000 km de lignes. Désormais, il en compte 24 000 km environ, soit moins des deux tiers.
Ah, on va rouvrir des petites lignes, je pense.
J'espère. Revenons à nos voyageurs. Du 5 au 7 septembre, ils sont à Belle-Île-en-Mer, qui déplaît à Marcel, qui le notifie ainsi. « J'ai fait un très aventureux voyage. Les mauvaises impressions n'ont pas été rares, au début surtout, dans la très surfaite et très malsaine Belle-Île. » « Malsaine? Pourquoi malsaine? Les sardines, peut-être ?»
C'est son côté infernal.
Ouais. 150 conserveries sont installées en Bretagne suite à la découverte de la stérilisation par Nicolas Appert, l'apertisation. Avant la mise en boîte des sardines, elles sont conservées dans la glace. Une glace importée de Norvège, puis stockée dans des silos. Je crois qu'on a de nouveau cette idée récemment, il me semble. Ce jusque dans les années 30, quand on saura la fabriquer. Au retour des bateaux, les très nombreuses ouvrières devaient venir travailler dès que l'alarme sonnait, de jour comme de nuit, afin que le poisson ne pourrisse ou ne sèche. Le 8 septembre, Marcel et Reynaldo sont à Concarneau. Reynaldo dit que le paysage est quelconque. Puis il traverse la baie en bateau à vapeur qui assure la liaison Concarneau-Begmail. Begmail, quel est ce lieu? On peine à le situer. Begmail, que vous évoque ce nom? Exotisme, île paradisiaque.
Oui, tropical.
Tropical, et pourtant c'est en Bretagne qu'est localisé ce lieu improbable. Et Proust en fait cette description. Un pays enchanteur, terre de beauté, mélange de poésie et de sensualité. Wow. La plus noble et douce, délicieuse chose que je connaisse.
J'ai envie d'y aller. Hein.
Ah oui, moi aussi.
Fatih, elle est en extase devant tout à chaque fois ce soir. Elle fait,
wow. C'est le désir de vacances. Ouais.
J'adore Begmail, où il est exquis de vivre. Est-ce réellement ainsi? Effectivement, moi je m'y rends de suite également, avec Fatih.
Yes.
Où le ressenti d'une vie de rêverie, de bonheur simple, bord de mer et vie campagnarde, que Marcel goûte aux côtés de son ami. Il ajoute « Quiberon, un Sahara sans oasis. Concarneau, très joli, mais pestilentiel. Et Begmail, où je crois que nous séjournerons un peu. C'est un petit pays calme et verdoyant. » Leur séjour se déroule donc du 8 septembre au 27 octobre 1895. Voici comment Marcel, l'écrivain, mu par un nouveau désir d'écrire, narre ses journées. Vers 11h du matin, comme il fait du soleil, je lis ou écris dans le clos de pommiers. Un petit escalier de pierre le long duquel montent des vignes vierges descend jusqu'à la mer. Il y a là de petites tables rondes de fer qui, même à ce mois d'octobre, reçoivent le soleil avec l'ombre des feuilles remuées par le vent. Jean Santeuil naît ainsi comme une ébauche à la recherche du temps perdu. L'ouvrage sera découvert après la mort de Marcel Proust en 1922 et publié seulement en 1952. Les deux amis se promènent par les chemins, vers les plages, lisent dans les dunes. Ici, Marcel Proust vit. Il sort en barque, en carriole, il chemine et raconte. Pour monter jusqu'au promontoire, je suis le long de la baie un sentier tracé dans la fougère, le genêt, la bruyère et la jonc, comme un talus fleuri qui longe un chemin creux. Je suis à l'hôtel Fermont, une sorte de ferme où l'on dîne en plein air. On prend des repas dignes d'être servis entre les colonnes de marbre des grands hôtels suisses. Et pourtant, le confort n'est pas au rendez-vous. Marcel évoque ses urtications. N'existe pas même de cabinet. Et je vous assure que rien n'est irritant comme l'excès de zèle des orties qui veulent faire les indispensables. On imagine la scène.
Aïe.
Aïe, oui. Begmail, l'odeur du cidre se mêle à celle des goémons. Ce mélange de poésie et de sensualité est assez à ma dose. Sensualité, costume de plage, les créateurs s'intéressent à ce nouveau vêtement. D'abord très couvrant, puis de moins en moins, au point que les fouets nantais appellent les baigneurs les montres-culs. La fin de la villégiature approche, Marcel l'a décrite ainsi. L'automne avance. Nous sommes maintenant seuls dans l'hôtel. Je vais avec le maître d'hôtel dans sa voiture quand il a affaire des lieux dans un village dans les terres. Et à côté de lui, sur le siège, je réponds au salut des paysans. Mais ces beaux jours, comme toute chose, prennent fin. Je quitte Begmail.
Merci la marine baladeuse. Tu dis souvent que Proust est allé à tel ou tel endroit avec son ami.
Mm-hmm.
I.
I.
Et oui, Proust était gay. Et je me demande si, déjà à son époque, il a été victime de discrimination ou de sexisme. Alors certes, il n'était pas une personnalité publique de son vivant, il n'était pas très connu. Mais quand même, c'est une question à creuser.
Ah oui, oui, surtout qu'il vivait dans un milieu très bourgeois qui peut-être empêchait...
peut-être que c'est pour ça qu'il allait à la campagne aussi.
Oui, peut-être.
Eh bien écoutez, revenons à notre époque avec Fatih, la féministe bien sûr.
Hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer la journée pour vous parler du féminisme, et oui, encore et toujours, du féminisme et du sexisme qui sont intimement liés. Tout d'abord, une petite définition donnée par le Conseil de l'Europe, bien pertinente à mon sens. D'une manière générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en pratique. Fermez les guillemets. Je ne sais pas vous, mais moi j'en déduis que tout un chacun peut donc participer à ce mouvement féministe, car être féministe n'est pas propre à un sexe ou à un genre. Tu peux donc être femme, homme, gay, lesbienne, hétéro, bi ou trans, ou plus largement LGBTQIA+, et être féministe. Tout comme tu peux être femme, homme, gay, lesbienne, hétéro, bi ou trans, ou plus largement LGBTQIA+, et être confronté au sexisme, ou être sexiste. Mais le sexisme, c'est quoi ? Eh bien, disons que ton comportement est sexiste si tu perçois et juges les autres ou si tu discrimines une personne uniquement sur la base de son appartenance à un sexe ou à un genre particulier. Certes, la femme est plus touchée par le sexisme que l'homme, mais l'homme, avec un petit h, l'est aussi dans une moindre mesure quand même. Le sexisme au quotidien peut prendre différentes formes. Parfois, on ne se rend même pas compte que c'est du sexisme. Allez, quelques exemples issus de notre quotidien, justement. Premier exemple, raconter des blagues sur les filles. Mais oui, tu sais, les fameuses blagues sur la blonde qui ne comprend rien. Du genre, pourquoi est-ce qu'une blonde est folle de joie quand elle a terminé un puzzle en 6 mois ? Parce que sur la boîte, c'est marqué de 1 à 4 ans. Ça vous fait sourire, avouez-le.
Moi, j'adore les blagues de blonde, je suis désolée. Je suis désolée, j'adore.
Non, mais tout le monde ne se marre pas, mais je vois bien qu'il y a des sourires. Alors, bon, je dois vous dire, derrière chaque blonde, il y a surtout une femme, messieurs, dames.
Et un être humain.
Au sexisme inconscient ou pas. Commenter, deuxième exemple, commenter ou se servir du corps féminin comme s'il s'agissait d'un objet. Ah oui, ça, le marketing publicitaire adore. Pendant des décennies, il suffisait qu'une femme a walpé pour vendre de la bière, des meubles, du yaourt, du carrelage, du jus de fruits, des fleurs, des chaussures, des pulls et tout in quanti.
Et des voitures ?
Non, ça c'est pour plus tard. Pour la petite histoire, la première femme déshabillée apparaît dans une publicité en 1905, sortant d'un paquet de... De pâtes. Ah, oui. Fermeté et légèreté, disait le slogan. On parlait de la femme ou des pâtes ? Heureusement, en 2001, en France en tout cas, et 96 ans plus tard quand même, une charte de bonne conduite interdit enfin aux publicitaires de montrer une femme dénudée lorsqu'il n'existe aucun rapport avec le produit. Cela étant, vous savez à qui on peut remettre la palme des publicités les plus sexistes, voire misogynes ? Et là, allez-y.
Les voitures.
Eh oui, allez-y. Les voitures, eh oui. La bagnole, la pub pour la bagnole. Logique. Voiture égale vitesse, égale puissance, égale égo titillé, égale domination, égale séduction. Patriarcale. Oups, j'ai encore lâché le mot. Rappelez-vous de la pub pour une voiture d'une marque, bon, que j'affectionne tout particulièrement d'un point de vue design et puissance de turbine. Oups, serais-je sexiste ? Eh bien, en 1993, oui, c'est tout récent sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, cette pub disait « Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi ». Il aura, notez bien le changement du temps du verbe, hein, c'est important, il aura la femme. Ah.
Rien que ça.
Rien que ça. Bien. Et pour répondre à la question, serais-tu sexiste, Fatih, la féministe ? Eh bien, inconsciemment peut-être, surtout lors des blagues sur les blondes. Hein. Compétition oblige, car je suis brune, et comme vous le savez tous et toutes, les brunes ne comptent pas pour des...
Prunes !
Mais consciemment, non, car la conductrice que je suis pense voiture, égale indépendance, avant tout. Plus design et confort si possible. Bon, allez, d'accord, avec un petit peu de puissance quand même. Allez, je passe à un dernier exemple de sexisme au quotidien. Réagir à la façon dont les femmes sont habillées. Réaction qui pullule sur les réseaux sociaux, où on vilipende Catherine Deneuve de porter une longue robe à l'épaule dénudée parce qu'elle n'a plus 20 ans, alors qu'on congratule un genre à la Kevin Costner de porter un t-shirt saillant, ses biscottos en berne. Oh, rappelez-vous, ceci dit, remontons encore plus dans le temps, dans la pièce, le Tartuffe ou l'imposteur de Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. C'est cela, oui. Eh bien non, mon Tartuffe, mes tristes pulsions grâce à ton éducation et apprécie juste ma tenue pour ce qu'elle est. Enfin bref, malheureusement, la pire des situations est celle qui rejette la faute sur la victime de son propre viol, en raison de sa tenue vestimentaire. Au fait, que portiez-vous ce soir-là ? Or, soyons clairs, l'habit ne fait pas la
victime.
Toute la responsabilité de l'acte violent doit revenir à l'agresseur. D'ailleurs, l'exposition qui sillonne le monde, appelée « What were you wearing ?»
Waouh, quel accent.
Merci. À l'initiative conjointe de l'ONU et de l'Union européenne, prouve que les tenues vestimentaires ne sont pas corrélées au motif de l'agression. Et oui, messieurs, dames, j'étais en jean basket, ça ne l'a pas empêché. Bon, et bien, pour terminer, allez, un petit slogan à méditer qui dit « Éduquez vos fils au lieu de protéger vos filles ». Bon, protégez-les quand même un peu en attendant, un petit peu.
Merci beaucoup, Fatih. Il y a pas mal de révoltes dans l'air du temps ces derniers jours, mais je ne rentrerai pas dans le débat, mais il ne faut pas oublier tous les enjeux que le mot liberté englobe et le féminisme, la lutte contre la discrimination et le sexisme en font partie. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Je suis sûre que vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais notre chroniqueur Batcave, qui s'intéresse tant au mouvement post-punk, est lui aussi musicien et même interprète d'un groupe qui s'appelle Lady Spartacus. Ils viennent de sortir un titre il y a quelques semaines et j'aimerais qu'on mette notre chroniqueur à l'honneur aujourd'hui avec le titre Hungry Fires. Batcave, est-ce que tu nous en dis un petit mot quand même avant qu'on se quitte ?
Comment le présenter ? Je ne sais pas trop. Hungry Fires, c'est le meilleur morceau de mon album qui va bientôt sortir. Non, c'est pas vrai, il y en a plein d'autres qui assurent derrière.
En tout cas, moi, quand j'ai écouté, ça m'a donné envie d'écouter toute la discographie de Lady Spartacus. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon morceau. Donc en tout cas, merci à mes chroniqueurs de ce matin, la marin baladeuse, Miss Kilt, Fatih la féministe, Patty qui est venue encourager ses camarades, et bien sûr, Jules et Batcave. Vous êtes toujours sur Graphite dans la matinale infernale et on écoute le groupe Lady Spartacus, Hungry Fires, pour nous quitter en musique.